Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Lorsqu'il sort, il regarde toujours s'il ne voit pas une Rolls noire. Mais non, il n'y a rien. Quelque chose lui dit que sa prédilection va se réaliser et qu'il va rencontrer une personne qui l'aidera. Pierre devient aigri, triste. Rien ne lui plaît. Il continue à prendre des femmes dans la rue, les bars, halles de gare. Mais cela ne lui dit plus rien. Non, plus rien. Même de taper sa femme. Il le fait par habitude. Rien de plus. Son travail, il le fait en faisant de moins en moins attention. Il fait des erreurs en préparant les dossiers. Heureusement que son père passe derrière lui. Fais attention, si on m'envoie que l'on bâcle les dossiers des projets, ils vont nous laisser tomber. J'ai appris, c'est qu'ils deviennent de plus en plus sévères. Ils ont des difficultés aussi, avec toutes ces villes qui n'arrivent pas à finir, comme Lyon. On aurait mieux fait, c'est de la raser cette ville. Marseille, les Allemands ne sont pas arrivés à la mettre au pas. Mais le groupe Flamblanc y est arrivé. Alors fais attention à tes dossiers et pense à tout mettre dans ton projet. Tu en oublies toujours. Et une fois que la chose est lancée, il est trop tard. Une piscine ne se rajoute pas comme ça dans une résidence. Et où sera le financement si ce n'était pas prévu? Alors fais bien attention. Et je te le promets. Et pour se donner du courage, il boit encore plus. Carole le pousse à boire. Pour le dégrader encore plus, pour accélérer sa fin, comme il pense. Quand il se retrouve le soir au salon, pour se donner du courage, il boit encore plus. Carole le pousse à boire. Pour le dégrader encore plus, pour accélérer sa fin. Quand il se retrouve le soir au salon, elle lui fait un scotch. Tiens, pour te remettre de ta journée. Et comme il boit, il se sent mieux. Alors il boit de plus en plus. Pendant le repas aussi, elle lui dit, « Prends du bourbon, ça te donnera du fortifiant. C'est bon, ça. » Et il boit, le soir durant la soirée, bourbon, bourbon. Et avant d'aller se coucher, elle lui prépare une tisane avec du rhum. C'est bon une tisane avec du rhum. Comme ça, la nuit, il la laisse en paix. Il pense même pas à la battre. Il tient bien l'alcool et on ne dirait pas qu'il boit tant. Maintenant, pour chercher une fille, fait qu'il ait pris une bonne rosée. Ça le rend gai et dispo. Mais lorsqu'il doit agir, là, il s'épuise vite et il demande à sa femme de finir le travail. Carole est heureuse de retrouver Eric, ce jeune garçon plein d'allant, fort beau. Avec lui, il faut plutôt le freiner. Les deux frères ne voient pas que leur père boive de plus en plus. Amélie s'en aperçoit, cela la désole. Elle se dit, il se tue. Elle dit à son mari au salon,
« Je trouve que Pierre ne va pas bien du tout. »
Il lui dit, « Il est un peu fatigué. »
« Non. Il boit beaucoup. »
« Tu te fais des idées. »
Elle lui dit, « Je sais reconnaître un homme qui boit. »
Auguste des épaules. Lorsque Pierre va les voir, elle lui dit,
« Tu devrais te reposer un peu, non ?»
Pierre lui dit, « Ça va, mère ? » ?»«
On ne dirait pas. Il boit moins. »«
Mais je ne bois presque pas, » la mère aux ses épaules lui dit.
« Tu n'es pas bien. »
Les jours passent. Frédéric rêve toujours à la belle femme en noir. Et rêve d'une rencontre qui sera décisive pour lui. Amélie, lorsqu'ils sont seuls, lui dit
« La femme que tu as rencontrée doit être une voyante.
J'en ai connu une fois.
Et pourtant, je ne crois pas du tout à ces choses. Mais, comme toi, elle m'a fait une drôle d'impression. C'était une amie qui m'avait dit d'aller la voir. J'y suis allé comme ça. La voyante habitait le Marais, un hôtel particulier, un bel hôtel du 18e. Elle était très riche et réputée. Des ministres, des hommes d'affaires venaient la voir, et même un président de la République. À l'Élysée, elle est allée. Lorsque je suis rentré chez elle, j'étais surprise, sans plus. Il faisait sombre, très sombre, une ambiance très triste. On m'a fait entrer dans une horrible chambre d'attente, un vieux salon, avec des meubles tout usés et poussiéreux. La personne qui m'a fait rentrer était une femme qui semblait jeune, mais habillée comme un sac de pommes de terre et peignée comme une vieille fille, l'air revêche. J'ai appris plus tard que c'était la fille de la voyante. Lorsque j'ai vu la voyante, une femme petite, toute maigre, habillée de noir, on aurait dit une paysanne, mais j'étais frappé parce qu'elle m'a dit. Frédéric lui demande, et que t'a-t-elle dit ? Elle lui dit ce que vous disent les voyantes me l'a dit, mais elle m'a parlé de ma famille et m'a dit qu'elle était envoûtée, qu'un mauvais esprit était entré chez moi et que nous allions entrer dans une violence terrible, être victime d'un grand drame. Lequel ? Je ne sais pas, mais ça m'a fait une forte impression. Frédéric se dit que qu'elle ça lui a fait une forte impression, mais qu'elle ne lui a rien dit de précis. Mais à lui, on lui en a dit plus. Elle lui demande « Et toi, tu l'as revu ?»«
Non, je n'ai pas revu et je ne crois pas que ce soit une voyante. »
Quelque chose me dit
que ça n'en est pas une.
Quelque chose dit à Frédéric que ce n'est pas une voyante.
C'est autre chose.
Non, non.
Elle ne prédisait pas.
Elle devait.
Elle disait ce qui allait se faire.
Elle prévenait ce qui allait se passer.
Les jours passent. Eric voit toujours Carole. Il y a souvent des scènes pour rien. Il cherche surtout à lui prouver qu'il est un homme. Et puis, c'est lui qui commande. Mais elle ne se laisse pas faire. Les gens de l'immeuble, lorsqu'ils voient Eric, ils disent « Voilà le petit monsieur !» Et ils le regardent avec respect. Parce qu'à son âge, avoir une maîtresse, et qu'en plus, il sait se faire obéir, parce qu'ils entendent leur querelle. Les jours passent. Un matin, pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner au salon, Carole et Pierre, elle lui dit
« N'oublie pas que nous avons rendez-vous chez Dutheil à 21h. » Il lui dit « Oui, je sais. »
Ça ne lui dit rien d'y aller. Il aimerait mieux se reposer. Il soupire.
Elle lui dit, c'est important, il faut y aller.
Il lui demande,
mais tu ne peux pas y aller seul, ce sont tes amis.
Elle lui dit, ça ne se fait pas.
Il lui dit, bien, j'irai, mais on ne reste pas.
Comme tu voudras.
Nous irons en voiture,
mais avec la tienne. Parce que la mienne est en révision.
Oui.
Ils se lèvent de table, elle aussi. Sortent du salon pour aller à la sortie de l'appartement. Avant d'ouvrir la porte, elle lui dit « N'oublie pas de venir ». Tôt pour te préparer.
Oui, bien sûr. Allez, à ce soir.
Oui. Et il se quitte.
Le soir, il s'apprête à quitter son père.
Elle lui demande, tu pars déjà?
Oui, j'ai des choses à faire. Nous verrons demain.
Auguste lui dit, bon. Et Pierre le quitte.
Sa femme lui a dit de ne pas le dire. qu'ils avaient rendez-vous. Il lui dit que c'est un rendez-vous d'affaires. Il ne faut pas que ça se sache. Il y aura Franc-Blanc incognito. Tu comprends? C'est pour mes affaires. Et Gilbert serait furieux si c'est qu'on a dit qu'on l'a vu. Il ne veut pas que ça s'ébruite. Pour être tranquille, lui a-t-elle dit. Pierre entre chez lui, il est 19h. Carole lui dit, va te préparer. Et il va dans la salle de bain. Prendre un bain. Pendant qu'il est dans son bain, sa femme vient vers lui avec un verre de bourbon. Tiens, ça te fera du bien. Merci. Il le boit allongé dans son bain et lui dit, détends-toi. Et elle le laisse. Une demi-heure plus tard, il la retrouve au salon, tout habillé. T'assise, est en robe du soir beige. Elle lui dit, viens t'asseoir et buvons, nous avons encore le temps. Il va s'asseoir. Elle lui sert un verre de scotch. Tiens, merci. Un deuxième. Tiens, merci. Elle lui demande, tu te sens mieux? Oui, merci. Elle regarde sa montre et lui dit, je crois qu'il est temps d'y aller. Il se lève et sort du salon. Et de l'appartement. Une fois dehors, elle lui dit, tu veux conduire? Moi, j'aime pas conduire la nuit. Oui, bien sûr. Ils vont vers la voiture et ils entrent dans la voiture. Puis, il la met en route. Il lui demande, elle habite où déjà? Elle lui dit, tu as oublié?
On longe la Seine. Après, on suit la route. Je vais te conduire.
Lui dit, bien. Il roule dans Paris, un Paris sombre, presque sans lumière.
Peu de circulation. Les gens sont déjà entrés chez eux et sortent le moins possible à cause des attaques, des bagarres qui se passent la nuit. Ils sortent de Paris. Là, c'est encore plus calme. C'est elle qui le guide. Il est un peu perdu. Il ne sait plus vraiment où il va, où il est.
Tu es sûr que c'est par là?
Mais oui, bien sûr.
Il lui dit, qui croyait que c'était de l'autre côté.
Elle lui dit, il y a une déviation à cause des travaux.
Ah oui, les travaux, c'est toujours la même chose.
Elle lui dit, il faut bien refaire la chaussée. Elle est toute défoncée, ça fait 40 ans qu'elle n'a pas été refaite.
Il fait de plus en plus sombre. Il roule sur une petite route étroite qui longe la Seine.
D'un côté, il y a la Seine, de l'autre, des rangées d'arbres. Ne voir que le rebord de la route. Des tas d'inondices. Sur le rebord de la route, telles des carcasses de voitures, des réfrigérateurs, fours, etc. C'est devenu une décharge sauvage. Il lui dit, c'est rudement lugubre cette route.
Elle lui dit, oui, rudement lugubre.
Oui, rudement lugubre. Et pas la moindre lumière.
Le chemin a plein de trous de poule, de coups de poule.
Il n'y a presque pas de goudron.
Il lui dit, on dirait une route abandonnée.
Elle ne dit rien, il continue à rouler.
Puis, au bout d'un moment, elle lui dit, attends, arrête. Arrête-toi un moment.
Pourquoi?
Parce que j'ai besoin de reprendre mes forces.
Je suis un peu fatigué.
Si tu veux, n'y allons pas à cette soirée.
Elle lui dit, nous verrons.
Arrête là. Arrête-toi ici.
Bien. Et il va s'arrêter.
Elle sort de son sac un verre et une bouteille, remplit le verre, le lui tend.
Tiens, bois, ça te fera du bien.
Il prend le verre et boit.
Ça fait du bien, hein?
Ça réchauffe.
Il lui remplit un autre verre.
Tiens.
Et il boit.
Merci.
Il lui dit, tu ne bois pas?
Elle lui dit, si après, lorsque ça sera fini.
Il boit, ça fait du bien, ça détend.
Elle lui dit, tu vois que j'ai eu raison, allez, encore un.
Et elle le serre.
Il lui dit,
ça détend, je me sens bien, très bien. Il n'a envie de rien. Bye. Se sent engourdi. Bye. Ne sent plus ses membres. Il a des difficultés à garder ses yeux ouverts. Je crois...
Je m'entends bien. Oh, il sommeille.
Tu ne peux pas savoir. Bon. Le rendez-vous. Elle lui dit, repose-toi. Après, nous verrons. Il lui dit, oui, tu as raison. J'ai sommeil.
Et il ferme les yeux. Ne bouge pas. Mais ne bouge pas. Dehors, c'est la nuit noire. Les phares sont restés éclairés. Au bout de quelques minutes, elle se penche sur son mari. Il tourne la tête, lui touche le pouls et le regarde, regarde ses yeux. Il dort profondément. Elle dit,
il dort. Tu peux sortir.
Du siège arrière apparaît Eric qui était caché. Sous le siège arrière.
Il lui demande, il dort ? Et lui dit, oui, profondément. Presque mort. Il ne peut rien faire. Le médicament est très fort. C'est celui qui a servi à sa femme. Il l'a tué avec, mais nous n'avons qu'endormi. Faut aller. Allez.
Elle enlève le frein de la voiture et ils sortent de voiture. Il est toujours à la place du conducteur, fixé à son siège par la ceinture de sécurité. Elle a pris son sac à main et mis dedans la bouteille et le verre. Une fois sortis, ils vont à l'arrière de la voiture et la poussent jusqu'au bord de la Seine. Et là, ils la font tomber à l'eau.
La voiture flotte et petit à petit prend l'eau. Eric lui demande, ça ne va pas le réveiller ? Et qu'il sorte de voiture ? Elle lui dit, non, le médicament est très fort. La voiture ne va pas s'enfoncer à fond, mais ça suffira pour faire croire à un accident. Elle vient de tuer son mari et cela la laisse froide. Lui vient de tuer son père et ne ressent rien. C'était que pousser une voiture. Et qu'est-ce qu'un père pour lui ?
Ils reprennent leur souffle en voyant la voiture flotter et prendre l'eau. L'eau est calme, pas de rayures, lisse, la surface est lisse. Elle le prend par le bras et lui dit, allez, il faut partir. Il retourne vers la route. Elle lui demande. La voiture est où déjà? Il lui dit. Après le tournant, sur l'autre route. Après la passerelle, ils y vont.
Dans l'après-midi, elle est allée garer sa voiture près du crime pour le retour. Elle est garée sur une route nationale qui est parallèle au chemin défoncé qui longe la Seine. Ils y vont. Mais là où elle avait garé sa voiture, elle n'y est pas. Pourtant, j'ai bien mise. J'avais bien garé ici. Il lui dit, cherchons plus loin. Et il se met en route. Il n'y a pas de voiture. Ils s'en retournent. Ils vont de l'autre dans l'autre sens. Pas de voiture non plus. Elle est apeurée. Qu'allons-nous devenir? Et où est-elle? Il lui dit. On dira qu'on nous l'a volée. Elle lui demande affolée. Qu'allons-nous faire? On ne peut pas rester ici. La police va comprendre que c'est nous. Il lui dit. Arrête de paniquer. Il suffit de rentrer à pied à Paris. Elle lui fait, et comment? Il lui dit, en faisant du stop tout simplement. Allez! Et il se met en route en direction de Paris. Elle est paniquée. La route est vide de circulation. Elle lui dit, que va dire la police pour la voiture? Il lui dit, eh bien, tu diras qu'elle a été volée. Elle lui dit, ils vont faire le rapprochement avec l'accident. Il lui dit, non, une simple coïncidence.
Ils entendent un bruit de moteur. Se retournent, c'est une camionnette qui va à leur direction. Vite, Eric leur fait signe de s'arrêter. La camionnette s'arrête. Un homme qui est le chauffeur, gros, cheveux longs, blanchis, leur demande.
Oui.
Eric fait. Vous pouvez nous mener à Paris? Le chauffeur lui dit.
Oui.
Il ouvre la portière et qui est à côté de lui. Carole et Eric entrent. La camionnette est assez large pour qu'ils puissent être trois. Carole dit merci au monsieur. L'homme met la camionnette en route.
Il lui dit pas de quoi. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé?
Carole ne répond pas. Eric lui dit,
nous avons eu une panne de voiture.
Elle est où votre voiture?
Eric lui dit,
là, dans le bas-côté.
L'homme lui dit, si vous voulez, nous pouvons aller voir. Eric lui dit,
pas la peine. Le garagiste va venir demain matin. Et puis, la panne est très grave.
Je veux faire. Ah!
Carole est épuisée et a peur. Elle aimerait.
Elle aimerait bien aller loin, fuir. Mais elle n'ose pas. Et puis elle aimerait boire aussi. Et se dire qu'Eric a drôlement du cran. Répondre comme ça. Pourtant, il vient de tuer son père. Il est vrai que la famille ne signifie rien pour le jeune homme. La famille, c'est le hasard. Et puis, la famille, pour lui, c'est une carte, de l'argent. De l'argent à demander. Il n'y a rien d'autre. Or, leur dit, sans le temps, j'aime pas rouler par un temps pareil. L'été, c'est plus gai, mais plus difficile à travailler. Eric lui demande, qu'est-ce que vous faites? Il lui dit, j'ai des livraisons. C'est des produits très fragiles et qu'il faut livrer vite pour ne pas que ça se détériore. Carole lui fait, ah, des légumes? Non, de la viande. Non, de la viande. Vous êtes boucher? Non, je travaille pour un laboratoire. J'apporte de la matière première. Eric lui dit, ça doit pas être drôle de travailler la nuit.
Oh non, mais c'est le métier qui veut ça. La nuit, c'est plus facile pour prendre la matière première.
Carole fait, pourquoi?
Il lui dit, parce que l'on est plus libre et ça se ramasse plus facilement.
Eric ne comprend rien. Il se dit que ce doit être des bêtes qu'il doit prendre, des bêtes sauvages ou des insectes. Et il lui demande, vous en avez dans votre camion? L'homme lui dit,
oui, j'en ai. Et du premier choix.
Beaucoup?
Non, deux.
C'est pas beaucoup. Chauffeur lui dit,
si ça suffit. Des fois, je ramasse rien ou de la mauvaise qualité. Mais là, mes chefs vont être contents.
Carole lui demande, vous êtes marié?
Il lui répond, oui. Et ma femme en a marre de la vie que je lui fais vivre. Elle travaille quand je rentre à la maison. Ce qui fait qu'on se voit qu'entre les quatre portes. Moi, je livre la marchandise et elle aide à dépecer ce que j'ai livré le matin. On se complète, quoi.
Ils arrivent dans la banlieue parisienne. Carole soupire. Le chauffeur lui dit,
je vais livrer ma marchandise, pas bien loin d'ici, dans un labo.
Elle lui dit, oui, bien sûr.
Il lui dit, mais avant, j'aimerais c'est m'arrêter, prendre un café, si vous voulez.
Et il va arrêter sa camionnette dans un parking de restaurant Rougetier. Ils sortent des camionnettes pour entrer dans le restaurant. C'est meublé à l'américaine. Boiserie de rouge, vert, jaune, etc. Il y a quelques routiers attablés. La banque du bar fait toute la longueur de la pièce. Le barman est un grand homme, à moustache et cheveux châtains, habillé d'une veste blanche. Ils vont s'asseoir à une table. Le barman vient à eux. Il leur dit,
tu viens bientôt, et c'est de la bonne cette fois. Tu auras ta prime. Le chauffeur lui dit, j'y compte bien. Tu nous sers trois cafés?
Il demande aux autres. Ils font oui de la tête. Le barman
va le leur chercher. Chauffeur leur dit, je vais aux toilettes, j'ai envie de pisser. Et il se lève. Carole dit à Eric,
devrions, c'est nous en aller, sans faire nous faire remarquer. Pourquoi? J'aime mieux. Il est bizarre ce chauffeur. Et on n'est pas bien loin de Paris.
Elle se lève et dit, viens. Il se lève et la suit jusqu'à la sortie de la porte.
Tout d'un coup, entre la porte et eux, se trouve le barman qui leur dit,
madame, et votre petit frère, vous partez?
Elle lui dit, j'ai oublié mon sac, je reviens.
Il fait, ah, et il les laisse partir.
Une fois dehors, Carole dit, voilà.
Et il se met à courir jusqu'à la route.
En vitesse,
direction Paris. Ils ont peur de se faire prendre.
Pendant ce temps, le chauffeur revient. Il ne voit plus ses passagers.
Où sont-ils?
Berman lui dit.
Ils sont allés chercher le sac de madame.
Le chauffeur lui dit, idiot, tu les as laissés filer.
Et ils ont dû prendre la route.
Il se dit, je ne peux pas les reprendre, ça risque de faire du scandale.
Tant pis.
Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.